Bien-aimé, shalom. Nous sommes là ce soir pour cette deuxième journée après celle qui nous a introduit hier. Je vous invite à lire Daniel chapitre 3, le verset 13 à 18, et la première épître de Pierre, aussi au chapitre 3, le verset 14 à 16. Je commence la lecture à Daniel chapitre 3. Alors Nabucodonosor, avec colère et fureur, ordonna d'amener Shadrach, Meshach, Abednego. Alors ces hommes furent amenés en présence du roi. Nabucodonosor prit la parole et leur dit, « Est-il exact, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée. Est-ce que maintenant vous êtes prêts au moment où vous entendrez les sons du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, du luth, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous ne l'adorez pas au moment même, vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Quel défi! Shadrach, Meshach, Abednego prit la parole et dirent au roi, « Ô Nabucodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre quoi que ce soit à ce sujet. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, qui nous délivre de la fournaise de feu ardent, et la main de ta main, ô roi. Même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as faite. » 1 Pierre, chapitre 3, versets 14 à 16. Bien plus, au cas où vous auriez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. N'ayez donc aucune crainte. Ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient confondus. Car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal, parole du Seigneur. Bien-aimés, ce soir, nous allons aborder le thème « Les conditions à remplir pour être témoin du Christ ». Y a-t-il des conditions? Parce qu'il y en a, effectivement, qui se sont retrouvés témoins, mais sans avoir été préparés au préalable. Ils ne l'ont pas fait de la manière dont le Seigneur l'attendait, parce qu'ils n'ont pas été préparés. Il y en a qui ont commencé et qui se sont arrêtés à mi-chemin, fatigués, découragés, frustrés, de constater que le Seigneur n'a pas agi. Mais comment peut-on bien commencer et se rassurer si on est jeune en 15 ans, on vieillira en train de rendre témoignage? C'est ça effectivement que nous devons comprendre. Comment se fait-il qu'il y en a autour de nous des personnes âgées qui ont commencé la vie de foi trop jeune, mais qui jusqu'à aujourd'hui, ils ont 60, 70, 80 ans, ils continuent à aimer le Seigneur, a aimé même la parole de Dieu. Quelles sont les conditions à remplir? Avant d'en parler, je voudrais dire, et c'est une remarque, on ne s'impose pas à être témoin du Christ. On ne s'improvise pas à être témoin du Christ. Il y en a qui ont tenté de le faire et en ont retiré beaucoup de problèmes. Vous avez certainement entendu parler du récit d'Actes des Apôtres, chapitre 19, les fils de Séva, n'est-ce pas?
La parole de Dieu nous parle dans ce chapitre 19 aux actes des actes des apôtres à partir du verset 11 que le Seigneur était en train d'accomplir des miracles par les mains de Paul. La Bible même en parle comme des miracles peu banals. Pourquoi peu banals? Parce qu'on appliquait aux malades des mouchoirs, des linges, qui avaient seulement touché la peau de Paul et beaucoup de gens obtenaient la guérison. Les esprits mauvais étaient même chassés pour avoir touché sur un mouchoir qui a touché le corps de Paul. Ça n'arrive pas, ça. Alors, les fils de Séva, que l'on considère dans ce passage comme étant les exorcistes juifs, prennent le risque, et aussi, de commencer à chasser les démons au nom de celui que Paul annonce. Les démons réagissent. Ils ont dit, c'est Jésus-là, nous le connaissons. Et c'est Paul dont vous parlez, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Celui qui était possédé par les démons s'est jeté sur eux. Et la parole de Dieu témoigne que ils ont été sauvés de justesse, mais ils sont tous partis, en tout cas à moitié nus. Parce que ils ont témoigné, au nom de qui? Au nom de Jésus que Paul prêche. Nous avons des gens qui effectivement rendent des témoignages au nom de Jésus dont leurs parents parlent. Ou alors on les fait tout simplement par imitation. On voit les autres les faire, on y va aussi. On ne s'improvise pas. Il faut y être préparé. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1 et le verset 8, Jésus dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, qu'il reste, parce qu'il est indispensable qu'ils reçoivent, ils reçoivent le Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. La première condition à remplir, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia! De recevoir le Saint-Esprit. Combien dans notre église, la CBK, sont sûrs d'avoir reçu le Saint-Esprit? Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as entendu la voix du Saint-Esprit, c'est quand? Est-ce que vous entendez l'Esprit vous parler? Ou c'est une histoire dont les gens parlent? Ou la Bible parle? Mais l'Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Romains chapitre 8 verset 9, il est dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ils sont nombreux qui ont reçu le baptême sans le Saint-Esprit. Ils sont nombreux qui chantent à la chorale sans le Saint-Esprit. Ils sont nombreux qui se retrouvent comme par enchantement dans tel ou tel autre ministère sans le Saint-Esprit. La première condition fondamentale qu'il faut avoir, remplir, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est pas pour rien que Jésus dit à ses disciples, ne partez pas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et après, vous serez mes témoins. Si donc il y a une carence de témoignages, c'est parce que beaucoup de gens qui sont dans nos églises n'ont pas le Saint-Esprit. C'est clair. Ils se comportent à l'église comme dans un terrain de foot, je l'ai dit hier, où beaucoup de gens sont des spectateurs. Cet esprit en nous nous revigore, nous donne toute l'énergie, nous incite à rendre témoignage parce que Jésus peut revenir bientôt. Mais combien sont sûrs d'avoir reçu le Saint-Esprit? Il y en a qui ont déjà reçu Jésus plusieurs fois. Ils le reçoivent aujourd'hui, ils disent, bon, c'est comme si Ali Jengi. Trois jours après, ils sentent qu'il n'est pas là, ils disent, je vais encore le recevoir. Il y en a même qui disent qu'ils ont reçu Jésus plusieurs fois, il a refusé d'entrer. Parce qu'ils pensent qu'on doit le sentir. Quand il entre, on sent comment il descend jusque dans le ventre, il s'assoit confortablement, il est dedans. n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de foi. Bien-aimé, c'est pour toi cette question. As-tu reçu le Saint-Esprit? Lorsque tu as cru, lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là, si vraiment tu l'as reçu, avec sérieux, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais que fait-il en toi? Comment peux-tu ne pas témoigner? Comment peux-tu ne pas rendre témoignage? Comment peux-tu ne pas vivre une vie conforme à la volonté de Dieu alors que tu prétends que l'Esprit de Dieu habite en toi? Comment peux-tu passer toute une semaine sans lire la Bible et tu te retrouves, c'est le dimanche seulement que tu dis, où est ma Bible? L'Esprit, c'est l'élément fondamental. Deuxième élément, si donc le Saint-Esprit habite en moi, je dois développer une intimité avec Dieu. Alléluia. Donc, on ne peut pas se retrouver en train de rendre témoignage de façon efficace que si on cultive fondamentalement une intimité avec Dieu. Et c'est ça le texte que nous avons lu dans Daniel chapitre 3, versets 13 à 18. Il est question de trois jeunes gens déportés de Jérusalem, ils se retrouvent à Babylone, en terre païenne. Mais parce qu'ils ont rencontré, ils ont connu le Dieu vivant à Jérusalem. Quoique déportés, le Dieu qui agit en eux, à Jérusalem, agit toujours en eux, où qu'ils se trouvent. Alors on les accuse en disant qu'ils ont refusé d'adorer la statue du roi Nabucodonosor. Et c'est vrai, ils avaient refusé. Ils sont conscients qu'un vrai juif qui connaît le Dieu vivant ne peut pas se mettre à genoux devant une idole pour l'adorer. Alors Nabucodonosor les convoque. Après les avoir convoqués, il leur dit, je vous donne un ultimatum. Dès que vous entendrez les sons de la cithare, d'Aconémus, etc., vous avez intérêt à adorer la statue. Sans quoi, vous serez jetés dans la flamme de feu, dans le temps de feu. Comment ils ont répondu? Ils ont dit, quoi qu'il arrive, au roi Nabucodonosor, nous n'adorerons pas. Ça, nous ne ferons pas. Parce qu'il leur a dit, et je verrai, c'est ça, je verrai quel Dieu vous délivrera de ma main. Il se reconnaissait comme étant tout puissant, qu'il n'y a aucun autre Dieu qui pourra l'affronter de manière à l'empêcher de mettre la main sur eux. Ils ont rendu témoignage parce qu'ils avaient une intimité avec le Seigneur. Parce qu'ils connaissaient les dieux vivants auxquels ils avaient cru. Il y a quelques années en Russie, les policiers sont entrés pendant qu'on était en train d'organiser un culte. Et quand ils sont entrés, ils ont dit, tous ceux qui sont ici et qui prétendent qu'ils croient en Jésus, nous allons les tuer. Mais ceux qui veulent se sauver, qu'on ne les tue pas, qu'ils sortent. Vous pensez combien sont sortis? Plusieurs sont sortis. Quelques-uns sont restés. Et ceux qui sont restés, ils étaient menacés de quoi? De la mort. Alors les policiers ont dit, vous êtes restés ici, pourquoi? Ils sont tués. Vous êtes prêts à la mort? Ils disent, oui, nous ne pouvons pas renier Jésus. Ils ont rendu témoignage parce qu'ils avaient l'intimité avec lui. Ils savaient que la mort physique n'est pas une mort qu'on doit craindre. Alléluia. Ils savaient qu'il y aura la résurrection. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que les policiers leur ont dit, fermons la porte, continuons à chanter. Comme les hypocrites sont partis, nous aussi nous sommes chrétiens. Mais ceux qui ont renié Jésus, ils étaient où? Ils étaient dehors, les hypocrites. Si ça se faisait à Gomaville, on dit ceux qui sont accrochés à Jésus et qui sont prêts à mourir, qu'ils restent. Combien resteront à la chorale? Combien resteront dans l'équipe d'intercession? Combien resteront parmi les anciens, les diacres? Et nous les pasteurs, parce qu'il n'y a pas que les non-pasteurs qui ont peur de la mort. Combien resteront? Ça, c'est un test. C'est un test extrême, mais en fait, ça aura lieu. Attendez-vous à ça. Les combats engagés, lorsqu'on va être témoin du Christ, n'est pas le moindre. Il faut cultiver une intimité avec le Seigneur pour être prêt au combat et en sortir vainqueur. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus
ne cesse de dire au vainqueur, je donnerai la couronne de vie. Parce que le livre d'Apocalypse a été écrit dans un contexte de persécution criante. Le seul choix à faire, c'était, la question qu'on posait était de dire, Jésus est-il Seigneur ou c'est César qui est Seigneur? Et celui qui disait que Jésus est Seigneur, on l'a décapité. C'est dans ce contexte que le livre d'Apocalypse a été écrit. Et celui qui disait que c'est César qui est Seigneur, on lui demandait de retourner à la maison, manger avec ses enfants, s'il est marié, dormir avec sa femme. Mais il reste, mais il est déjà mort spirituellement. Dieu dont nous parlons, je l'ai dit encore hier, c'est le Dieu vivant. Il faut cultiver une relation profonde avec lui. Dans l'écoute de sa parole, dans la prière, dans l'obéissance à sa parole, parce que c'est à ce titre-là, si tu es préparé, tu pourras rendre témoignage. Troisième élément, avoir une foi authentique. Avoir une foi authentique et inébranlable. Pourquoi une foi authentique? Parce que c'est au moment des épreuves qu'on constate qui ont été préparés, qui remplissent les conditions et qui peuvent continuer à tenir, à rendre témoignage. Vous vous rappelez du récit de Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté de la rive. » Et pendant qu'ils sont dans la barque, au moment inattendu, il y a des vagues. Un vent impétueux vient secouer le bateau. Et l'eau commence à pénétrer le bateau. Il y a des vagues terribles. Pendant ce temps, les disciples crient de peur. Jésus est endormi. Il pose la question. Pendant que nous périssons, toi, tu dors. Ne te mets-tu pas en peine de ce que nous sommes en train de périr? Jésus se lève en disant, où est votre foi? Où est votre foi? Mais il a menacé, il a imposé un silence à la mer, il a dit, silence, tais-toi. Et il y a eu un calme. C'est dans ce récit de Marc qu'il y a une phrase, un verset qui dit, qui est donc celui-ci à qui obéissent même les eaux et la mer? Il faut donc être armé pour être effectivement un témoin du Christ, avoir une foi authentique. Une foi qui ne se préoccupe pas des tempêtes de la vie, qui éclate quand on s'y attend le moins. En dépit du poids et de la gravité de ces tempêtes, la gravité du danger, si on a été bien préparé, on a une foi solide, foi ancrée dans la parole et les promesses du Seigneur, on restera calme. Parce que les yeux sont fixés, sur Jésus et non sur les tempêtes. Combien de personnes, lorsqu'il y a une souffrance, une épreuve qui arrive, sont les premiers à fuir. Il y a des changements brusques qui arrivent dans notre vie. Mais des changements brusques qui sont concomitamment suivis de souffrances, des situations de détresse, des moments d'agitation et qui constituent à la fois un moment où nous devons prouver que dans la souffrance, nous restons des témoins du Christ. Dans la souffrance, nous demeurons des véritables témoins du Christ. Cela ne sera possible que si nous avons une foi en Christ, mais encore et surtout en sa parole, et qu'au fur et à mesure, cette foi a grandi. Elle est devenue solide, fondée et ancrée dans la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous lisons la parole, que nous obéissons à cette parole, nous sommes préparés. Au moment des souffrances, quand nous sommes stressés, nous connaissons des stress, nous passons par des pressions, des épreuves incalculables, insupportables, nous pouvons continuer à témoigner notre foi. Il n'est pas question ici de la quantité de la foi, il est plutôt question de la qualité de la foi. Comment te comportes-tu devant un examen, étudiant, étudiante? Comment te comportes-tu devant une situation qui t'expose à passer la nuit sans manger? Comment te comportes-tu quand tu as de l'argent qui ne t'appartient pas et tu es pressé de tous côtés? Comment te comportes-tu quand tu tombes malade? Comment te comportes-tu quand il y a un accident ou un incident, décès dans la famille ou autour de toi? Comment te comportes-tu face à des épreuves multiples auxquelles ou par lesquelles tu passes.
Je voudrais vous dire que la peur, la tristesse intense, l'angoisse, un état d'instabilité peuvent trahir notre foi si nous ne sommes pas de ceux-là qui gardent le calme devant des situations éprouvantes. Comment réagissons-nous? Et c'est pour cette raison que le Seigneur permet, dans sa pédagogie divine, de faire passer ses enfants à travers des situations éprouvantes, chacun à sa manière, parce qu'il veut faire grandir notre foi, pour nous préparer. J'ai l'habitude de dire aux gens que les petites victoires que nous remportons, nous préparent au grand combat. Alléluia. Si nous nous habituons, nous laissons le Seigneur nous aider à remporter de toutes petites victoires au quotidien. Devant les défis mineurs, nous restons debout. Nous gardons notre foi. Nous gardons notre identité. Au fur et à mesure que nous remportons de petites victoires, nous remporterons de grands combats. C'est donc cette foi authentique qui nous rend témoins authentiques. Au gré de toutes les vagues, dans n'importe quelle situation par laquelle nous passons, nous resterons debout, témoins du Christ. Si tu es étudiant, tu n'as jamais été prêt à avoir zéro pour la gloire du Christ, alors que tu avais l'occasion de faire quoi? De tricher. Tu dis non, je préfère avoir zéro. Nous étions à Kinshasa étudiants et il y a eu pillage. Et on a vu des voisins avec lesquels on priait descendre le matin pour aller piller. Et quand ils retournaient, transportaient des frigos, des congélateurs, ils disaient, en tout cas le Seigneur est bon. C'est lui qui a envoyé ces pillages pour que nous puissions avoir nous aussi des frigos et des congélateurs. Et la journée, on s'est moqué de nous. J'étais là avec ma femme et trois enfants. Dans l'enclos où nous étions, on s'est moqué de nous. On dit, Bino Kokufa Nanzala. Parce qu'on refusait même, nous on refusait même d'acheter des choses que les gens venaient de piller. Ils ont dit, vous allez mourir de faim. Alors le soir, il y a eu des coups de balle dans toute la ville. Les gens ont tremblé. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu peux venir prier pour nous. J'ai dit, ah, vous étiez en train de moquer de moi la journée. Maintenant, vous m'appelez pour que je suis allé. J'en ai profité pour faire passer un message. C'est donc pendant les moments d'épreuve inattendus que nous révélons si nous avons la foi, si nous n'en avons pas. Enfin, être prêt à défendre sa foi, à n'importe quel prix, c'est-à-dire en refusant de s'accommoder. C'est ce texte-là de 1 Pierre chapitre 3 que nous avons lu. Je voudrais que nous puissions le relire. Il dit, n'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et respect. Au point que même sur le point où on cherche à vous calomnier, ceux qui vous décrivent qu'ils constatent votre bonne conduite. Alléluia. Nous ne pouvons effectivement défendre notre foi que par notre conduite qui confond les gens, qui les déroute, qui les plonge dans la confusion totale. Et s'ils nous posent des questions, nous répondons calmement pourquoi nous croyons. Mais combien savent pourquoi ils croient? Combien savent pourquoi ils croient? En 2006, j'étais en train de faire mes recherches à Genève et nous sommes allés en vacances avec des étudiants, des étudiantes en Syrie, à Damas. Malheureusement, dans mon passeport, il y avait la photo qui était dans mon passeport. J'ai porté un col pastoral et c'est un monde musulman. On m'a arrêté. Parmi plusieurs, on m'a arrêté. Et comme nous n'étions que deux noirs, il y avait moi et notre collègue Ngangura, on l'a associé aussi à moi. Mais en fait, c'est moi qui étais visé. On m'a posé la question. Tu viens faire quoi ici? J'ai dit, je suis venu comme touriste. Tu viens d'où? Je viens de la Suisse. Tu fais quoi là-bas? Je dis, je suis étudiant en théologie. Je fais le doctorat. On m'a pris, on m'a amené chez quelqu'un d'autre. On m'a amené, je crois, à cinq ou six places pour voir si j'allais changer de,
des versions. C'était à 2h du matin jusqu'à 6h, sous l'interrogatoire. On a constaté effectivement que j'étais pasteur. Et donc, il fallait qu'on sache qu'est-ce que je suis venu faire là-bas. Je répondais calmement, mais sans savoir le lendemain quel sera mon sort. Le Seigneur nous place souvent dans des circonstances où nous sommes appelés à défendre notre vie. Et à 6h du matin, il nous a libérés, sans caution. Parce qu'on libère les gens en payant une caution. Je me rappelle que notre jour, nous étions en train de... Je suis allé enseigner à l'UEA. Et un dimanche matin, je suis allé au culte. Nous étions quatre enseignants. Un Burundais qui était de la faculté d'agronomie. Deux autres, ces deux-là d'ailleurs venaient de Goma, qui étaient de l'UNIGOM et qui enseignaient aussi en médecine. Et puis moi. Alors le soir, ils m'ont posé la question. Toi, le matin, nous on est restés en train de dormir. C'était un dimanche. Tu es allé où? Je dis, je suis allé au culte. Ils disent, mais vous allez faire quoi au culte? Je dis, en quoi cette affaire vous concerne? Ils disent, non, toi tu es quand même professeur. Tu vas le matin, au lieu de dormir, tu vas au culte. Il faut quand même te reposer. J'ai dit, bon, est-ce que c'est parce que vous êtes des docteurs, des professeurs d'université, que vous pensez que vous n'avez plus besoin de Dieu? L'un a dit, je vois que ces messieurs cherchent à nous provoquer. J'ai dit non, vous m'avez posé la question, moi je vous pose une autre question. Bon, on a eu un débat avec eux pour dire que nous aurons toujours des occasions dans les milieux de travail, en famille où nous sommes, dans le monde des affaires. Chacun de nous, Dieu l'a placé quelque part. Il te donne d'assumer telle ou telle fonction. Tu es même mère de famille. Là aussi, tu dois défendre ta foi. Père de famille, tu dois défendre ta foi. Comment le faisons-nous? Nous devons nous préparer. Il y a des conditions à remplir et l'une d'elles, c'est d'être aussi prêt. Par notre conduite, notre façon de parler, d'annoncer le Christ, de le proclamer, de donner les raisons qui font que nous croyons. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ceci que je suis obligé de le faire. Ce n'est pas parce que les gens se sont accordés à agir de telle manière que je suis obligé de le faire. Et c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes commencent la vie de foi, marcher avec le Seigneur, mais ils ne tiennent pas longtemps. À cause de ces différentes péripéties par lesquelles ils passent. Il y en a qui sont fervents à Goma, mais il suffit de traverser la frontière. Bien, je suis à Goma. Comment se fait-il que ces jeunes-là, Meshach, Shadrach, Abednego, qui ont connu le Dieu vivant, ont réussi à tenir, même en territoire païen? Ils étaient enracinés. Ils avaient des racines. Il faut avoir des racines dans le Seigneur et dans sa parole. Ceux qui ont crucifié Christ, nous crucifierons aussi, à cause de la vérité que nous intégrons dans notre vie. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'aime pas la rigueur. Le monde dans lequel nous vivons n'aime pas la sainteté. Le monde dans lequel nous vivons n'aime pas ce qui les contrarie. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens abandonnent. Ils commencent à être comme tout le monde, à s'accommoder un peu trop. Le message de ce soir nous amène à comprendre qu'il y aura des obstacles dans la dynamique de rendre témoignage. Il ne faut pas s'improviser. Il faut avoir été préparé par le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit en soi et obéir au Saint-Esprit. Il faut développer une intimité profonde avec le Seigneur, des moments de prière, de méditation de la parole de Dieu. Et c'est là, chaque jour, parfois se retirer dans la présence de Dieu pour être préparé à le servir. C'est rassurer qu'on a une foi authentique qui passe, qui traverse, qui fait face aux vagues, aux épreuves, et qui survit au-delà des épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Être enraciné dans le Seigneur au point de payer le prix d'être son témoin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.